Il aura vécu à l'altitude de son œuvre préférée, le Centaure. La réussite lui fut donnée, mais il attendait mieux, la reconnaissance. César méritait une rétrospective à Beaubourg. Hélas, la France est souvent oublieuse.
Il y a maintenant près de 15 ans, vous avez créé vos premières compressions et personne ne pouvait alors imaginer à quel point vous alliez perturber le cours de l'histoire de l'art contemporain. Personne, je le crois, peut-être quelques initiés. Vous avez imposé une rupture, et le mot rupture est le mot qui convient. Vous avez pris et donné de la liberté, vous avez surtout donné de la liberté à César, c'est-à-dire à vous-même. Et cette liberté, vous l'avez prise à vos risques et périls. À force de casser les voitures, vous auriez pu casser votre réputation. En fait, en 1960, vous avez voulu faire scandale, du moins on l'a cru. Mais vous aviez, j'ai l'impression, mon cher César, vous aviez votre petite idée, et peut-être même était-ce une grande idée. Vous vouliez faire scandale ?
Je crois pas que je me suis posé toutes ces questions, vous savez. Je crois que ça, ce sont les autres qui ont décidé que c'était pour faire du scandale. Quand on est dans une action, on ne pense pas, on agit. Et il est certain que le salon de mai, c'était un salon qui était fait pour se... On pouvait très bien, à ce moment-là, si on avait une idée, pouvoir se manifester dans le cadre de cette exposition. On pouvait très bien mettre une œuvre qui était dans le courant de ce que vous faites, mais on peut aussi, par exemple, si on a une idée, bon, mais c'est le lieu où on peut apporter une idée.
L'imposer, cette idée.
L'imposer, ça, je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'on pense à ça. Vous savez, ma démarche à moi, ce n'est pas une démarche intellectuelle. Donc, j'analyse pas. J'agis.
Rien n'est préparé.
Vous savez, les choses se préparent. Rien n'est préparé. Rien n'est préparé et tout se prépare. C'est une action qui est née du temps. À force d'aller dans un lieu, le parcours que je fais pour aller dans ce lieu, d'un lieu à un autre, on fait des rencontres.
Enfin, nous sommes convenus de croire, César, que cette date est importante, le 8 mai 1960. C'était le 16e salon de mai, c'était des carrosseries d'automobiles qui étaient compressées, c'était un directeur de salon qui était un peu gêné, un peu agacé, et c'était le commencement de votre vie, votre vie d'artiste.
Non, c'était une étape, c'est tout, parce que j'ai 53 ans. Alors si j'avais commencé à exister en 1960...
Oui, mais César s'imposait cette fois-là.
Je ne crois pas, parce que j'étais, si vous voulez, très connu dans mon milieu. Je m'étais déjà manifesté à la Biennale de Venise. J'avais déjà eu des actions. J'avais exposé pendant longtemps, déjà. J'étais à la Galerie Claude Bernard. J'étais chez Creusevaux. J'étais à la Rive Droite. Vous comprenez, c'est pas du tout, c'était simplement une étape.
Mais dans cette voiture, dans cet art que vous avez maintenant, vous avez trouvé le bonheur, vous avez trouvé la vraie vie, vous avez trouvé votre direction.
Le bonheur, la direction, je crois pas qu'on le trouve. Il est certain que je suis un passionné de la vie. Alors pour moi, dans le fond, le seul problème, c'est la vie. Il y a que la vie qui m'intéresse. Chaque jour qui passe pour moi, c'est une souffrance, parce que c'est un bonheur et une souffrance en même temps, parce que à la fin de la journée, je transporte derrière moi 53 ans de mort. Vous comprenez? Donc c'est la seule chose qui me trouble.
Oui, mais vous transportez, comme vous le dites, 53 ans de mort, mais vous engagez beaucoup d'années de vie pour l'avenir. C'est la seule manière d'avoir une tentation.
L'avenir, je le tiens pas. Je tiens le passé, mais pas.
Mais vous le voulez, cet avenir?
Mais bien sûr, puisque je suis un forcené, un passionné de la vie, alors il est certain que tout ce qui peut me troubler, ou tout ce qui peut me perturber... Le temps m'échappe un peu comme une savonnette. Hein, j'ai peur du temps, si vous voulez. Je voudrais ralentir le temps.
Une chose m'étonne, César. Vous me dites, j'ai 53 ans, et vous ajoutez, et je transporte 53 années de mort. C'est-à-dire, sans vos années, vous auriez pu me dire de la même manière, je porte 53 années de vie.
Et c'est-à-dire, non, moi, je porte 53 années de vie passées.
Pour vous, le passé, c'est la mort.
Mais oui, il n'y a que le présent qui m'intéresse.
Vous pouvez quand même en garder quelque chose du passé pour assurer le présent. et pour équilibrer l'avenir.
Ah, je pense que, malgré soi, on garde automatiquement le passé.
Êtes-vous l'enfant prodigue de Marseille? Comment êtes-vous reçu maintenant à Marseille? Car vous êtes de Marseille.
Oui, vous savez, comme tout Marseillais, si vous voulez, il est certain que quand vous êtes d'un pays comme Marseille, ou enfin comme le Midi, ça fait toujours plaisir aux gens de savoir qu'un enfant du pays a réussi. Ce qu'on dit, comme on dit, il a réussi. Bon, réussi quoi? Je ne sais pas, mais en fait, il est certain que... Je pense que c'est pas ce côté brillant, ce côté vedettariat, si vous voulez. S'ils ont vu ma photographie, ou s'ils m'ont vu avec mon temps, par exemple, il est certain que c'est ce côté... si vous voulez, ça fait plaisir par ce côté qui n'a aucun intérêt, dans le fond.
Ça leur fait plaisir parce que, vous connaissant bien, ils s'identifient un peu à vous.
Peut-être, mais je crois que ça, c'est pour tout le monde pareil.
Mais ce mot réussite vous fait peur, vous? Vous vous en méfiez?
Non, mais oui, parce que quand on dit il a réussi, j'ai réussi, qu'est-ce que c'est réussir? Vous savez, j'ai réussi, si vous voulez, à avoir du matériel. J'ai réussi à m'organiser, à travailler, à pouvoir me déplacer de chez moi à mon atelier. Ça, c'est une grande réussite. Voilà, la réussite, c'est ça.
Vos parents sont témoins de cette réussite?
Ils étaient témoins.
Ils étaient témoins. Ils vous ont vu réussir.
Oui, mais je ne sais pas si j'étais très conscient de ça. Vous savez, mes parents sont d'origine très simple. Bon, tout ce qu'ils ont vu dans cette affaire, c'est que j'avais l'impression, je leur donnais l'impression que j'ai gagné ma vie au bout de très longtemps, de temps.
Quelle idée vous faites-vous de César, vous?
Mais ça, je ne me fais aucune idée.
Oh, c'est une petite idée quand même. Vous connaissez bien, vous avez fait des autoportraits.
Oui, enfin, je me connais bien, bien sûr. J'ai une très grande lucidité. C'est ma lucidité, si vous voulez, qui... je suis lucide. Voilà. Alors, cette lucidité me permet, si vous voulez, de me rendre compte que je ne suis pas un génie. Mais je me rends compte aussi que je ne suis pas un con. Si on me dit ce que vous faites, c'est formidable. Alors je dis rien, mais il ne faut pas croire que ça me fait plaisir. Bon, mais si on me dit que ce que je fais, c'est de la merde, je dis rien, mais ça ne me fait pas plus plaisir. Parce que ça me fait pas plus... Vous comprenez? Il est certain que...
Vous êtes sensible à tout ce que l'on dit.
Je ne suis pas sensible. Je suis sensible à tout ce qu'on dit, ou je suis sensible à certains événements que par rapport... à la fragilité de ce que nous sommes. Et je ne parle pas de la fragilité spirituelle, je parle de la fragilité de la vie, pas en tant que chair, mais en tant que ce que vous appelez réussite. Quand on a eu de difficultés...
Moi, je me méfie du mot réussite. Si oui. Vous me dites « j'ai réussi ma vie », je suis content pour vous, mais si vous me dites « j'ai réussi », je ne suis pas content.
Mais ça, je crois qu'on est d'accord là-dessus.
Oui, tout à fait, d'accord.
Ce mot, le mot artiste, le mot... je pense qu'on est des gens comme les autres. C'est tout. Il ne faut pas se faire un numéro, un cinéma. Je suis artiste, je suis créateur. Ce sont des mots que je n'emploie jamais. Mais je ne veux pas non plus un excès d'humilité. Parce que alors, les deux extrêmes n'ont aucun sens.
Oui, parce qu'il y a des humbles qui sont d'une prétention extraordinaire. Mais vous êtes un artisan. Est-ce que c'est un mot encore qui peut vous plaire? Parce qu'il faut se méfier aussi des mots.
Oui, je sais très bien, on dit artisan. Artisan, ça veut dire... moi, j'ai un très grand respect, un très grand estime pour les artisans.
C'est le travail de la main.
Oui, mais je ne pense pas que ça suffise. La main, c'est un prolongement d'une pensée, d'une idée. Je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire en tout cas pour les gens comme moi. Les gens qui utilisent, si vous voulez, qui utilisent l'art avec des matériaux abstraits, c'est-à-dire avec la matière grise. Alors, ceux-là n'ont pas besoin de leurs mains.
Vous vous posez des questions sur vous? Sur que vous êtes devenu, ce que vous êtes, ce que vous serez?
Je ne sais pas. Je ne me pose aucune question. En tout cas, si je me les pose, je ne m'en souviens pas. ça ne peut pas dire que ça m'intéresse tellement. De me poser, j'ai peur de me poser des questions. C'est comme si je me pose des questions, je crois en rien. Enfin, je ne crois pas, moi je suis très matérialiste. Alors, mais il est certain que je me dis d'où on vient. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, il est certain que je suis... Il y a des moments où je crois en rien, mais je me dis, mais qui a fait ça? Parce que ce que j'ai fait moi, mais ce que nous, d'où venons-nous? Pourquoi on est là? À quoi ça sert?
Vous vous répondez lorsque vous posez ces questions? Vous trouvez une réponse?
Et non. Si vous pensez bien que cette question, je crois que tout le monde se la pose, du plus savant au plus,
mais vous plus avez, simple. Vous avez peut-être un dieu, vous, César.
Un dieu? Vous savez, moi j'étais à l'école communale et puis à la paroisse quand j'étais minot, quand j'étais gosse. Et alors Dieu, on me l'a toujours montré sous un aspect qui n'avait rien avec l'image que je peux m'en faire aujourd'hui.
Vous êtes à la fois traditionnel et révolutionnaire.
Oui, c'est curieux, oui. J'ai un côté... C'est-à-dire que j'ai un pied dans le passé... Et un pied dans le présent. Moi, je ne suis pas content quand on démolit tout pour faire neuf. Je suis content qu'on fasse neuf, mais je ne suis pas content qu'on démolisse. Le neuf existe par rapport au vieux. Alors, je vois quand on perturbe, par exemple, l'urbanisme d'une ville comme Paris, ou comme Nice, ou comme Marseille, mais il est certain que les raisons qui font qu'elle soit perturbée, si ce sont des raisons vraiment honnêtes, et alors à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord. Mais quand je vois détruire des choses pour des raisons d'argent ou je sais pas quoi, alors ça fait souffrir.
Vous voulez que l'on regarde les belles choses?
Oui, les choses qui sont justes. Elles sont justes dans le passé et elles sont justes aussi dans le présent.
Mais vous accordez une importance particulière au mot juste. La manière
oui,
dont vous
je veux dire, je veux pas dire beau.
Oui.
Joli. Vous comprenez? Juste, c'est tout.
C'est le mot exact, juste.
Enfin, moi, je cherche toujours mes mots. J'ai pas été tellement longtemps à l'école, alors souvent, j'emploie des mots.
Le bon sens.
Que je n'en connais pas la signification.
Si,
je
vous découvre, connaissez la signification des
pas
mots.
Toujours. Pas toujours. Des fois, je le découvre après. Que j'ai employé un mot qui ne correspondait pas à ce que je voulais exprimer.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude?
Ben, j'ai pas fait d'études. J'étais à l'école communale de mon quartier jusqu'à l'âge de 12 ans.
Certificat d'études?
Non, j'étais pas calé jusqu'à ça. Non, j'étais pas assez calé pour un certificat d'études.
Vous avez appris des choses tout seul, alors? Peut-être même justement ces mots dont vous parlez. Et maintenant, vous avez une somme de mots.
Je ne suis pas un autodidacte, parce que je n'ai pas l'esprit autodidacte. Mais, si vous voulez, j'arrive à me concentrer. Enfin, j'ai eu des moments très difficiles, très pénibles, mais je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui sortaient des grandes écoles et qui étaient des imbéciles. Et puis, j'ai rencontré des gens... qui ne sortaient d'aucune école et qui n'étaient pas des imbéciles. Maintenant, il y a aussi des gens qui sortent des grandes écoles qui ne sont pas des imbéciles. J'ai pas de...
Il ne faut jamais généraliser.
Voilà. Mais je crois que chacun... si vous voulez, je suis né... J'ai évolué... Je suis pas dans... J'ai vécu dans l'anarchie, si vous voulez. Et j'ai fait fonctionner, si vous voulez, mes sens, comme ça. Mais je suis... Encore aujourd'hui, si vous voulez, dans ma tête, les choses sont assez souvent embrouillées. Je suis pas... Si vous voulez, je suis un décalé. Je suis pas... Je vis pas dans le milieu dans lequel pour lequel je suis né.
Vous êtes dépaysé.
Si vous voulez, dans le fond, je suis un dépaysé.
Mais vous regrettez de ne pas avoir fait d'études?
Vous savez, on regrette toujours... je peux très bien très bien démystifier ça aussi, parce qu'il y en a qui sont contre la culture et tout ça et tout ça. Je crois que c'est une question d'intelligence, culture ou pas culture. La culture est valable pour celui qui est intelligent et elle est stupide pour celui qui est un imbécile. Alors il est certain, pourquoi pas, c'est comme on dit, oh ça sert à rien de savoir dessiner, c'est stupide. Plus on sait de choses quand elles sont bien digérées, au plus on est maître de la situation.
Mais vous, César, vous êtes quand même passé par les Beaux-Arts. Donc vous avez fait des études.
Oui,
vous êtes passé par une grande école.
Oui, enfin, ça c'est... Oui, bon,
vous n'avez pas le certificat d'études, mais vous avez fait les Beaux-Arts.
Oui, je suis même...
Et vous êtes même professeur.
Même professeur, oui, mais ça, je peux être... Vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas de certificat d'études qu'on ne peut pas être un bon professeur. J'ai, si vous voulez, l'expérience du temps. J'ai l'expérience du passé. Alors, il est certain que la vie est la meilleure des études. Ça, c'est sûr. Alors, disons que j'essaye, je dis toujours à mes élèves que je vais leur apprendre mon ignorance. Et, vous comprenez, c'est... J'ai des élèves qui sont bien plus calés que moi.
Oui, mais lorsque vous dites « je vais leur apprendre mon ignorance », en fait, vous leur dites « je vais leur apprendre mon expérience », ce qui est une richesse.
Oui, c'est un jeu. Je dis ça avec un certain humour.
Vous jouez beaucoup avec les mots, peut-être pour vous protéger, d'ailleurs.
Mais vous savez, je crois que ça vient du fait de cette formation que j'ai eue, cette déformation, si vous voulez, qui devient une formation. Dans le désordre, on trouve toujours un ordre. Je crois que je joue... c'est un peu une défense par rapport aussi à ma taille.
Vous vous trouvez petit?
Si je suis devenu... Si j'ai un certain humour et tout ça, ou si j'étais... On m'a trouvé souvent un peu exhibitionniste et tout ça. Il faut voir que je suis petit, il faut voir que je suis méridional. Et vous devez bien comprendre qu'un type qui est né à Paris ne peut pas se comporter comme un type qui est né à Marseille. Je sais pas, tout le monde a vu Pagnol, donc on peut pas, il faut pas juger. Je suis ce que je suis, j'ai une sensibilité et un humour qui correspond à ma nature. Je suis petit, donc j'ai toujours été obligé on entend souvent quand on est petit ce mot, quand on est gosse à l'école. Oh, pitchoum, oh, cagani, vous comprenez? Tout le temps, vous entendez dire que vous êtes petit. Et ça, je vous assure que, à force, ça vous. Ça me perturbait surtout pour les filles. Ça ne m'a pas perturbé autrement que pour les filles. Je me disais. Ça vous donne. En même temps, ça vous donne une certaine énergie.
Vous avez voulu dépasser votre taille?
Peut-être. Vous savez, j'aime pas beaucoup me référer à des noms. Mais enfin, j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer des gens, je ne dis pas importants, mais des gens pour qui ils avaient une profonde admiration. Par exemple, j'ai eu l'occasion, un jour dans ma vie, de pavarder avec Picasso sur ce problème. Et il m'a expliqué ce problème du petit exactement comme moi, je le lui ai expliqué moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... franc-maçonnerie entre les petits. Il y a quand même un monde des petits. Enfin, des petits, quand je veux dire petit, je veux dire...
La taille.
Quand on mesure 1m60, vous comprenez? Ça compte. Ça doit venir jouer un rôle dans la structure de la pensée d'un homme.
Et vous avez souffert de cette taille?
Non, j'ai souffert quand j'étais à l'école, quand j'étais, par exemple... quand j'étais gosse, quoi, quand on joue avec les gosses et tout ça, il est certain que on a. Écoutez, de toute façon, on veut toujours être grand, c'est sûr, ça. On a envie d'être grand. Bon, on finit qu'on est. Aujourd'hui, bon, j'ai accepté ma mesure, j'ai accepté ma binette, enfin ma tête. J'ai accepté. Bon, je me suis accepté. Je me corrige tout le temps, mais j'ai accepté.
Oui, vous êtes accepté parce que vous vous êtes composé un personnage.
Je ne me le suis pas composé, c'est la nature qui fait que, c'est le temps qui fait, c'est pas la nature elle a fait ce que je suis, mais celui que moi j'ai modelé de personnage, je l'ai modelé en fonction de la nature, c'est-à-dire j'essayais ça m'embêtait de pas, c'est toujours embêtant.
Vous mesurez 1m60?
60, 62.
Mais la taille, il y a une taille normale pour vous, 1m60, 1m61, vous trouvez que c'est petit, 1m70, 1m75, c'est bien, puis 1m90, c'est énorme, c'est trop.
Oui, alors là, c'est un peu un calamantran, on appelle ça chez nous.
Ça veut dire?
Un calamantran. C'est quelqu'un qui s'embronche partout, vous savez. Ou alors un toti. Il est grand, trop grand, ils sont un peu toti. Ils s'embronchent partout. Tout ça. Remarquez, aujourd'hui, je vous dirais que dans le fond, je suis assez satisfait d'être petit parce que ça vous développe la malice. On devient malicieux. On est plus habile. On est plus. On en veut plus. Parce qu'on veut se mesurer.
Plus intelligent.
Ah, écoutez, là, là, je peux pas dire ça, mais dans le fond de moi-même, je pense que les petits sont plus intelligents que les grands. Mais, non, ça, je crois pas. C'est une boutade.
César, comment vous situez-vous par rapport aux autres sculpteurs? Car s'il fallait mettre un mot profession, vous inscririez sculpteur.
Oui.
C'est une bonne définition.
C'est un mot un peu curieux aujourd'hui, ce mot sculpteur. Mais enfin, c'est ça. Ça s'appelle encore comme ça. Mais je ne me situe pas par rapport aux autres. Vous comprenez? Et on peut avoir une jalousie d'un autre sculpteur. Il y a des sculpteurs pour qui, disons...
Vous êtes jaloux de qui, vous?
Je suis jaloux de ce que j'aime. Si, par exemple, il y a un sculpteur en particulier, un artiste, disons pas un sculpteur, que je pourrais être jaloux, que j'aime l'homme et que j'aime son œuvre. Par exemple, j'aime beaucoup Tinguely.
Oui.
Bon, mais je dis, dans le fond, chaque fois, je vois des choses de Tinguely qui me touchent, parce que c'est un homme extrêmement... vraiment, c'est un homme très, très calé, puis c'est un homme extrêmement... Il faut le connaître pour se rendre compte. Et quand je vois son œuvre, eh bien, je suis jaloux d'elle. Bon, c'est une jalousie d'amour, si vous voulez. Il y a des sculpteurs pour qui j'ai beaucoup d'estime. Par exemple, je pourrais citer Ipoustegui, par exemple. Mais je ne suis pas jaloux de son travail et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il y a quelque temps, d'un seul coup, j'ai découvert Houdon.
Oui.
L'écorché de Houdon, vous connaissez?
Oui, très bien.
Un jour, je vais dans un cours d'anatomie aux Beaux-Arts et je découvre l'original de l'écorché. Et je suis resté devant cet écorché, stupéfait. Je suis resté... Parce que pour moi, vous savez, j'ai jamais fait... je connais pas le mot avant-garde. C'est-à-dire, je sais pas ce que ça veut dire d'être avant-garde. Parce que l'avant-garde, c'est un instant. Vous comprenez? C'est un instant. Et donc, l'avant-garde, pour moi, ça n'existe pas.
Si, le 8 mai 1960, lorsque vous êtes venu au Salon de Mai, vous étiez d'avant-garde.
Oui.
C'était un instant.
Bon, mais disons que pour les jeunes, aujourd'hui, je suis un vieux con. Dit, tiens, oh... Ça s'est dépassé, ça s'est dépassé, ça s'est dépassé.
Vous l'entendez dire en ce qui vous concerne?
Non, on n'entend jamais ce qu'on dit de vous. C'est les autres qui l'entendent pour vous.
Mais ça peut faire mal.
Non. Et non, parce que j'ai le sang qui circule, donc ça ne me touche pas, parce que instinctivement, je sais que je suis là. Vous comprenez? Enfin, ça, je le sais, je le sens. Alors, c'est pas le moment. Je suis pas encore, comment on appelle ça, stérile. Vous voyez, d'ailleurs, je le saurais pas non plus, parce que tous les vieux artistes qui deviennent stériles, ils le savent pas, puisqu'ils continuent. Et d'ailleurs, ils ont bien raison de continuer, ça n'a aucune importance.
On parlait de jalousie, vous n'avez jamais été jaloux de Picasso?
Bien sûr, je crois que j'ai eu un moment dans ma jeunesse où j'ai transporté mon personnage. Mais vous savez, c'était une jalousie. J'ai eu une jalousie. C'était pas la même que celle que je peux avoir pour un sculpteur contemporain que j'aime. C'est une autre forme de jalousie. Et vous savez, il y a des millions de formes de jalousie. Dans le fond, je suis jaloux de tout.
Alors que vous avez toutes les raisons d'être heureux de vous.
Et non, je peux pas être heureux de moi, parce que mais je suis pas non plus pas heureux de moi d'une manière systématique. Vous comprenez? Des fois c'est un jeu. Quand on dit, oh, des fois je dis des choses qui sont complètement que je pense pas du tout. Je les dis par boutade. Vous comprenez? Mais non, je crois pas.
Enfin, César, le nom de César est installé partout dans le monde. Il est reconnu. Alors, on dit des choses sur César. On raconte même des choses qui ne vous plaisent pas. Mais quelle idée faudrait-il se faire de César?
On ne le sait pas, ça. Je vais vous dire une chose, peut-être que vous n'allez pas le croire, mais je ne peux pas dire que j'ai lu une seule fois dans ma vie, à part quatre lignes dans un journal, dans une page qui n'a aucun intérêt... dans une presse, disons, parisienne. Mais, si, mais sinon, je ne l'ai jamais lu. J'ai un homme pour qui j'ai aussi une très grande amitié, et qui s'appelle Pierre Restany, et pour qui, enfin, ma vie est profondément liée à cet homme. Il a écrit sur moi souvent. Il y a très peu de gens d'ailleurs qui écrivent sur moi. Je ne l'ai jamais lu. Je lis.
Vous ne lisez jamais ce
que je lis comme les spécialistes. Je lis un peu comme les gens qui savent lire. Je lis à la diagonale. Vous comprenez ? Je lis un peu comme ça, et puis hop, je ne peux pas suivre. Je ne peux pas continuer.
Mais si on vous dit qu'il y a un extraordinaire article sur César, vous précipitez sur le journal quand même ?
Non.
Par curiosité ?
Non, je regarde l'ensemble. Je regarde si le titre, il est gros, il est petit, s'il y a une photo, s'il n'y a pas de photo.
C'est la photo qui vous passionne, parce
non.
que vous aimez bien vous regarder.
Ah non plus.
Non.
J'aime la photo, j'ai une passion pour la photographie. Mais j'ai une passion pour la photographie, pas pour la mienne. Alors on croit que c'est moi qui aime la photo. J'aurais aucune honte à dire ça. Dali aime la photo. Je ne crois pas que c'est un parti, mais il aime ça. Moi, il est certain que j'ai un côté exhibitionniste, mais pas d'une manière intellectuelle.
Pas comme Dali.
De nature. J'ai un côté exhibitionniste de nature, parce que je suis petit. Donc il fallait que j'attire l'attention sur moi. Alors je faisais... Il y en a qui disent... On dit que vous êtes un clown, par exemple. Moi, je ne me vexe pas du tout, parce que si on commence à dire que De Vos, c'est un monsieur pour qui j'ai... Je connais très peu, je l'ai rencontré dans ma vie, mais c'est un homme pour qui j'ai une profonde sensibilité, une profonde... J'ai beaucoup d'estime pour cet homme. J'ai énormément d'estime pour De Vos.
Il faut avoir beaucoup d'estime pour
alors,
De Vos.
Si on me dit, vous êtes un clown, je pense à De Vos, alors je dis bravo.
Ah, vous savez que De Vos a fait hier... une rentrée assez exceptionnelle à Paris, comme toutes ces rentrées. Et il faut aller au-delà du rire de Vos. C'est le rire de la vie. Et lorsqu'on dit c'est l'absurde, non, je crois que c'est l'amour qu'il a de la vie qui le pousse à tout regarder, à avoir un œil inquiet surtout. Et c'est votre œil aussi, peut-être. C'est la même vision des choses.
Oui. Tout ça, dans le fond, c'est la même chose.
Oui, mais il y a eu au départ quand même une...
Mais lui, il n'est pas petit.
Ah, on en revient toujours au mot petit.
Il est gros. Non, mais je pourrais dire, on revient au petit comme
si... On pourrait être petit et gros.
Si j'étais trop grand, je dirais... Parce que je pense, je lis... Je crois que la vie d'un individu qui a une passion de la vie, comme je l'ai, il est certain que ce... Je parle souvent de ce mot petit parce qu'il est possible qu'étant gosse, j'ai été marqué par ça. Alors ça revient malgré moi. C'est comme quand je vois un vieux film de 1936, je vais le regarder systématiquement. Parce que d'un seul coup, je retrouve James Cagney, ou je trouve tous les gens qui...
Qui ont alimenté votre...
Qui ont alimenté, quand j'étais gosse,
le
cinéma. Vous comprenez ?
Mais César, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous parliez de Paris... d'une manière un peu péjorative.
Non, j'aime beaucoup Paris.
Oui, mais vous méfiez des Parisiens.
Je suis beaucoup plus parisien que marseillais. Ça fait quand même quelques années que je suis ici. Beaucoup plus que ce que...
Il y a une élite parisienne que vous refusez, enfin. Un milieu parisien.
Non, on est toujours déçu de la société des hommes. C'est vrai, tout ça, c'est triste. Paris, c'est Paris parce que je suis là, mais si j'étais à New York, ça serait exactement la même chose. Moi, je ne crois pas à la société, je crois à l'homme, à vous, que je rencontre, mais je ne crois pas... En tout cas, je n'ai pas une cervelle qui a pu emmagasiner une possibilité de raisonner autrement. Alors, je crois à l'individu, mais je ne crois pas... À la masse, si vous voulez, je ne crois pas aux hommes, je crois à un homme.
En fait, César, si vous allez dans une société, comme vous dites, et si dans cette société, il y a 200 personnes ensemble, vous vous méfiez. Mais ce que vous voulez, à ce moment-là, c'est pouvoir les attraper à la sortie et les effeuiller un à un pour les connaître. C'est l'homme. L'homme tout seul.
Mais bien sûr, moi je suis un passionné des hommes, enfin des hommes et des femmes. Parce que
vous êtes marié?
Je dirais même mieux que je préfère les femmes aux hommes.
Vous êtes marié?
Oui, je suis marié, j'ai une fille. Vous voyez d'ailleurs, j'ai une fille, j'ai pas un garçon.
Elle a quel âge votre fille?
17 ans.
Comment considère-t-elle ce que vous faites? D'abord, est-il important qu'elle ait une opinion sur vous?
Et c'est sûrement important, mais je veux. C'est une chose qui reste comme ça dans l'espace. Et ma fille, elle est aux Beaux-Arts. Alors, vous voyez, c'est pas. Mais on n'est pas
l'héritage.
Du tout. L'héritage. Non, mais on n'est pas du tout. Elle est très indépendante. Elle ne me montre jamais ni ce qu'elle fait. Et moi, je ne regarde pas non plus. Il y a une espèce de timidité entre l'un et l'autre. Alors,
c'est ça. Une timidité qui est du respect.
Je ne sais pas si c'est du respect. On ne se mouille pas.
César, c'est votre nom?
C'est mon prénom.
Vous appelez comment, autrement?
Baldaccini.
Pourquoi vous avez oublié Baldaccini?
Je ne l'ai pas oublié, c'est les Parisiens qui l'ont oublié. Parce que, vous savez, ici, quand je suis arrivé ici, César, à Marseille, on ne m'a jamais appelé César. On m'a toujours appelé Balda. Oh, Balda. Et parce que des Césars, il y en a. Vous comprenez? Mon boulanger, il s'appelait César. Le gardien de nuit d'en face, du garage d'en face, s'appelait César. Dans ma propre maison, il y avait un César. Et j'avais un oncle qui s'appelait César. D'ailleurs, on m'a appelé César par rapport à cet oncle. Vous comprenez, des Césars, il y en a à la paix, là.
Oui, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup qui sont imposés comme vous. Il y a eu le César de Marius Fanny César de Pagnol, et puis il y a César le sculpteur.
Non, mais je crois que c'est ici, surtout. Parce que vous comprenez, ici, comment tu t'appelles? Ça vient des copains, de l'école, on a fait des Beaux-Arts. Je m'appelle César. On ne va pas me dire César
Baldaccini.
C'est plus facile à dire César que Baldaccini.
Ça vient d'où, ça? C'est corse? Italien?
Le César?
Baldaccini.
C'est italien. Vous me dites c'est corse et italien, pour moi c'est la même chose, vous savez.
Oui.
Corse ou italien. C'est pas vrai, les Corses ne sont pas d'accord, mais.
Vous avez toujours eu, je crois, des yeux posés sur les navires de la Joliette, étant enfant. Et c'est peut-être ce qui vous a donné l'idée de faire ensuite ce que vous avez fait. C'est-à-dire de voir tous ces matériaux transportés par les grues. Ce sont toujours des impressions d'enfant qui sont réalisées ensuite dans l'âge adulte. Enfin, je le crois.
Je sais pas. Je crois pas que c'est le rêve. Qu'il y ait eu cette métamorphose dans ma tête. Moi, je crois que ce sont des raisons purement matérielles. Pas d'autres raisons.
Ne pas accepter la médiocrité de votre situation.
Non plus. Ça, bien sûr.
Mais
vous savez que la pauvreté, c'est pas la médiocrité.
Ah non.
Aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, je me rends compte que je connais beaucoup de gens. Enfin, je connais. On sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens, qui sont médiocres.
Oui, mais attention, ça n'est jamais une médiocrité d'argent, c'est une médiocrité sociale, souvent.
Oui.
Et on peut considérer que parfois, justement, c'est un suicide social pour certains. Enfin, ils le disent.
Non, mais moi, c'est mon problème. C'est pas que j'ai rêvé à la Joliette ou au Pont aux Bordeurs. C'est simplement parce que j'avais. Je cherchais un moyen de trouver un local où je puisse enfin me retrouver des possibilités de pouvoir réaliser.
Oui, mais à quel âge avez-vous su que vous seriez sculpteur un jour?
Ah, ça, j'ai toujours su.
Toujours su, mais à quel âge?
Toujours.
Toujours.
Depuis que j'ai la mémoire, j'ai toujours su ça.
Donc c'était un choix, savoir choisir librement.
Mais je ne savais pas. Attention! Je savais ça, mais je savais pas que c'était ça. Ouais. Moi, je voulais savoir que je voulais être sculpteur parce que je pouvais tripoter de la mie de pain, de la glaise, des bouts de papier. Si vous voulez, il y a un côté. À l'origine, c'est une chose purement d'un comportement physique. J'étais capable de trier les petits pois à ma mère ou les haricots. J'étais capable, si vous voulez, de désosser une côte de bœuf. Pour moi, le sculpteur, c'était beaucoup plus, si vous voulez, le type qui taille les cailloux à Carrare ou le type qui travaille autour des cimetières. Je ne voyais que la chose artisanale, la chose...
Tailleur de pierre.
Manuelle. Je ne savais pas du tout, je ne pouvais pas analyser savoir que un sculpteur, c'était un homme qui pouvait, qui avait les moyens de s'exprimer avec des matériaux et une technique. Le mot exprimer, je ne sais pas ce que ça voulait dire, vous comprenez? Il ne faut pas oublier que je suis d'une très grande ignorance. Alors, je ne pouvais pas savoir. Ce sont des choses que j'ai découvert le soir. J'allais au cours du soir à Marseille, aux Beaux-Arts. J'ai rencontré d'autres jeunes gens qui étaient des fils de bourgeois, qui étaient des étudiants normaux. Et après ça, je suis venu à Paris, et ainsi de suite. Alors, il est certain que, si vous voulez, j'ai fait mon expérience d'une manière anarchique, comme ça, entre la rue. Ma curiosité vient de ça aussi. La rue, les bistrots, l'école, après ça, bon, les galeries, et voilà.
Vous vous considérez comme un professionnel, César?
Ben, je sais pas. Il y a des fois où je dis ça, je dis, j'aime bien les professionnels. Je préfère, si vous voulez, un homme, un bon artisan, un homme qui n'a pas un grand souffle, mais qui est un homme de métier, qu'un faux génie. C'est très vite fait de s'abriter. Je trouve que, si vous voulez, on vit une époque où il est certain que les intellectuels ont joué un rôle considérable. Et il y a un abus. Je trouve qu'il y a un abus.
Parfois, vous devez être victime de votre personnage. Je veux dire par
on
là
est toujours que... victime de sa liberté.
Je veux dire par là que votre pureté, qui est vraie, peut être trahie par l'anecdote, c'est-à-dire par tout ce que l'on raconte sur vous.
Oui, mais ça...
Mais vous en jouez.
Si vous voulez...
c'est le clown qui revient.
Vous savez, je vis pas... Je suis un type très angoissé. Hein? Je ne suis pas un type gay, comme on croit. Hein? Je peux être... comme j'aime la vie. Il suffit que j'oublie pour que je devienne gay.
Vous cassez des jouets. Ces jouets, ce sont les voitures, ce sont les...
Non, mais moi, je
ne
vois pas... Mais moi, je ne le vois pas comme ça.
C'est-à-dire, vous avez une vue différente sur les choses.
C'est un impact de matière. C'est pas du tout... je vais détruire le mythe de... Après ça, on peut dire tout ce qu'on veut, bien sûr. On peut reclasser les choses. Mais il est certain que c'est pas le moteur. Je dis pas, je vais utiliser l'Honda parce qu'il y a la crétinerie... Honda aujourd'hui, bon, l'automobile est devenue un... Écoutez, ce serait ridicule que je dise ça, je sais bien que c'est un problème très grave, l'automobile. C'est un problème très grave, si vous voulez, le progrès scientifique, qui est peut-être aussi pas un progrès du tout, parce qu'on s'aperçoit qu'on recherche plutôt à vivre le plus près possible de la nature. Et aujourd'hui, on essaye de protéger les rivières, et ainsi de suite. Bon, alors... j'ai pas voulu, c'est pas vrai, puisque je suis plutôt un type qui aime la voiture. J'aime l'automobile. Vous voyez, je peux dire, je suis un très bon chauffeur. Je fais corps avec une automobile. C'est-à-dire, je peux pas dire que j'aime pas l'automobile. Je suis pas obsédé par ça, mais quand je prends la route, mais je suis un homme qui... Je suis quand même professionnel.
Mais vous pourriez compresser votre propre voiture?
Oui, bien sûr. Je peux, ça, alors, d'un seul coup, c'est fini, ça. Vous comprenez? D'un seul coup, je ne sais pas comment expliquer ça. D'un seul coup, c'est les tripes qui parlent. D'un seul coup, il n'y a plus rien qui m'arrête. Vous comprenez? C'est comme si un type rencontre une belle femme, enfin une belle femme, disons, une femme qui lui plaît, et qui va pas foncer parce qu'il n'est pas d'accord avec sa belle-mère. Enfin, que la belle-mère n'est pas d'accord avec sa fille. Et il se pose plus aucune question. Il n'y a pas de question à se poser. C'est l'action.
Ça, vous avez fait un pari sur une vie tout à fait différente. Et peut-être même différente de celle que vous aviez eue dans votre enfance.
Mais la vie que j'ai vue dans mon enfance, la seule chose que j'ai vue dans... la seule chose que j'ai vue, que c'était les artistes, c'était au cinéma. J'avais vu un film, un des premiers films parlants, ça s'appelait La vie de Bohème. Alors, vous voyez, j'ai dit, ah, c'est ça, les artistes. On voyait des types avec des grands chapeaux. Alors, la vie de... comme j'ai jamais... comme j'ai aucune culture, que je lisais pas, donc je pouvais pas savoir qu'est-ce que c'était que la vie d'artiste à travers des biographies.
Enfin, vous ne connaîtriez pas César. Vous le rencontreriez comme je le rencontre moi aujourd'hui, puisque je vous ai en face de moi. Vous le verriez avec son costume de velours, dont il a fait son habit. Vous le verriez avec cette barbe. Qu'en penseriez-vous ?
Oh, ben ça, vous savez, ça, ben d'accord, on pourrait très bien éviter ça. Mais je crois que ça, c'est le côté... c'est le côté Montparnasse, c'est le côté... C'est même pas... je sais pas, on peut pas...
Enfin, vous êtes bien comme ça, c'est le principal.
Je peux pas dire que j'ai choisi tout à fait... écoutez, la barbe, c'est sûr que... il est certain qu'on peut penser ça. Mais la vraie raison de la barbe, c'est d'abord la question de feignantise. Moi, je suis un feignant, un pur feignant. La barbe, c'est que je me lève le matin et c'est fini. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, même si je me lève à 6 heures, c'est du temps perdu pour moi de rentrer dans une salle de bain. Vous comprenez ?
Vous vous lavez quand même de temps en temps.
Je me lave jamais. Enfin, je me lave le moins possible, le plus tard possible. Il faut que... Quand je me lave, c'est parce que vraiment j'en ai besoin. Mais de toute façon, j'ai jamais pris un bain. On me fait pas prendre un bain. Je peux avoir... Aujourd'hui... On peut penser que j'ai les moyens d'avoir une salle de bain, même deux. Eh bien, c'est pas pour ça que je prends des bains. Je prends quand même une douche, je prends pas un bain. Parce que la douche, je rentre et je sors. Vous comprenez ? Et encore, la plupart du temps, je le fais le soir. Parce que le soir, c'est la fin de la journée. C'est au moment où j'en peux plus. Et c'est fini. Alors, un peu plus, un peu moins, avant de rentrer dans le lit, je peux me laver.
Mais cette barbe est quand même frisée. Elle est travaillée ou frisée
naturellement ? Non, la barbe, je fais rien. Non. C'est parce que vous la voyez comme ça, parce qu'elle n'est pas entretenue. C'est tout. Mais je dis pas que ça me déplaît. Et c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi pas? Je l'ai déjà enlevé, cette barbe. Ça m'est déjà arrivé. La première fois que j'ai coupé la barbe, c'est par rapport à ma fille qui m'a demandé « J'aimerais bien te voir une fois sans barbe. » Bon, je l'ai taillé. Et je l'ai taillé aussi parce qu'il y avait le rasoir électrique. Quand le rasoir électrique a existé, alors j'ai eu l'impression qu'avec ça, c'était rapide.
La facilité.
Oui, mais dans le fond, on se fait une tête. On se fait une tête. J'aime mieux ma tête avec la barbe que sans barbe. Peut-être parce que je trouve que j'ai pas un bâton assez puissant. Je sais pas, moi. Mais je me remarquais, on le dit pas, ça. Je me suis pas dit ça. Mais aujourd'hui, que vous me posez la question... C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Chaque fois qu'on a une interview, on finit toujours qu'on répond aux questions que moi, je devrais poser à vous.
Oui.
Parce que vous posez des questions par rapport à vous et pas par rapport à moi. Vous comprenez ?
J'aime bien que vous me répondiez, comme ça j'essaie de me connaître.
Non, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Chaque fois que vous me posez une question, comme je m'y attends pas, j'essaie de répondre à cette question, mais je viens à peine d'y penser. Bon, mais c'est bien sûr que c'est pas la première fois qu'on me l'a posé, cette question-là, dans la rue, des copains. Bon, mais il est certain que je me la suis déjà posée. Alors, je dis, bon, mais puisqu'il faut l'expliquer. Alors, moi, j'essaye de l'expliquer, mais dans le fond, je devrais pas l'expliquer. J'ai une barbe, bon, mais ça m'a... D'abord, la première raison, c'est la feignantise. Enfin, cette feignantise. Parce que je peux très bien passer mon temps à rien faire si c'est pour traîner à la terrasse d'un bistrot quand il passe des gens dans la rue. Vous comprenez, je veux dire ? Je peux très bien ne rien faire pendant des semaines pour rien. Mais j'ai pas l'impression que je perds ma vie. Vous comprenez ? C'est tout. Alors donc, pour moi, me laver... Et des fois, je me dis, oh, tu es bête, tu es quand même mieux. Alors quand je me suis lavé, je me sens mieux. Alors je dis, bah, tu es bête, il faut recommencer. Mais il faut trouver le temps.
Lorsque vous faites tous ces autoportraits, lorsque vous vous mettez en scène, il y a bien une raison. C'est que vous essayez de vous reconnaître.
Non plus. Non, il n'y a aucune raison. Ces portraits, j'ai participé à une exposition sur l'autoportrait. J'avais apporté 200 autoportraits qui étaient le même portrait et qui étaient empilés comme des assiettes. L'idée, c'était ça, que chacun pouvait prendre une assiette. Voilà. Ça faisait, si vous voulez, un bloc. Un peu comme les compressions, si vous voulez.
Une expansion.
Non, ça faisait... C'est comme quand vous empilez des assiettes. Ouais. Bon. C'était la quantité, si vous voulez. Ça faisait... Donc, les gens pouvaient prendre un portrait. Et puis, ces portraits n'avaient aucun intérêt en soi. Bon, j'ai récupéré ces portraits un jour chez moi, et ces portraits, je les ai revus et revus. Alors, vous savez, moi, je jette jamais rien. Un vieux clou, un bout de papier, si on me laisse faire, chez moi, ça devient...
un bazar.
Je finis que ça devient une poubelle. Ça devient... je peux rien jeter. Parce que je retrouve toujours les choses. Elles reviennent toujours à un moment. Et ces portraits, à force de les avoir là, un jour, Colette Creusot me dit, est-ce que tu voudrais pas me rendre ces portraits? J'ai dit, oui, je vais essayer de te les rendre. Alors j'ai commencé à les remettre en question. Et c'est comme ça que chaque portrait, je l'ai remis en question. Mais j'ai raconté ma vie, si vous voulez, dans ce portrait, d'une manière spontanée. C'est-à-dire, il est certain que quels sont les problèmes, que même s'ils sont superficiels, bon, il est certain que je ne peux pas dire que je ne pense pas à Mao. Bon, je ne peux pas dire que je ne pense pas aux femmes. Bon. Je ne peux pas dire que je ne pense pas à un certain humour des choses. Donc je remets, si vous voulez, j'ai remis dans ces portraits ces anecdotes les unes par rapport aux autres.
Bon, l'humour d'accord, les femmes d'accord, pourquoi Mao?
Mais parce que je vis dans un espace, je vis dans un environnement. Je ne vois pas dans la journée, je ne passe pas un jour où je ne vois pas Mao. En tout cas, actuellement, ça s'est calmé un peu. Mais à un moment donné, Mao, je voyais Mao comme je pouvais voir à un moment donné toujours Marilyn Monroe. Je ne situe pas Mao par rapport
à la politique.
Au problème politique. Là, je le situe par rapport au problème, si vous voulez, de percussion d'une image. C'est comme aujourd'hui, je ne peux pas nier que je rencontre des casques, des motos. Bon. Et à un moment donné, il est certain que, malgré vous, si vous faites le reflet d'une journée d'un homme, de ce qu'il a vu, de ce que par moment il a pensé, si vous le rejetez et que vous faites une image de tout ça, vous retrouvez ça.
En ce moment, César, vous êtes professeur à l'École des Beaux-Arts. Il y a une liberté d'enseigner, mais est-ce la vraie liberté? Vous n'avez pas, vous le disiez tout à l'heure, votre certificat d'études, vous voilà à la tête de jeunes étudiants prêts pour un avenir. Et qui ne réussiront pas ce que vous avez obtenu.
Ça, on ne peut pas le dire.
Pas tous, en tout
bon,
cas.
Bah,
non, mais vous êtes un privilégié.
Un privilégié.
Autrement,
privilégié.
Il y aurait des masses de César.
Mais
il
un,
y a
privilégié
pas de César.
Un privilégié.
On ne sait pas de quoi, d'accord.
De la nature, alors. Non, mais.
Privilégié de vous-même.
Ce que je peux répondre à cette question, je crois que je ne suis pas le seul à. C'est un problème qui est arrivé à d'autres personnes que moi. Matisse a bien reculé devant cette situation. Il avait une académie et il a dit, c'est pas possible, on ne peut pas être professeur et peintre. Et l'autre jour, j'ai entendu un comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Lonsdale.
Lonsdale, Michel.
Lonsdale, voilà. Je trouve cet homme, je le connais depuis très très longtemps. On ne se parle pas. Enfin, peut-être j'ai eu dit bonjour à cet homme, mais j'aime beaucoup cet homme. Et par hasard, l'autre jour, je l'ai vu. Je ne sais plus dans quel émis, dans un entretien.
Avec Philippe Bouvard, peut-être.
Oui,
hein.
Oui. Je déteste cette émission, mais on la regarde malgré soi. Non ?
Bouvard est très sympathique.
J'ai rien contre Bouvard, mais je déteste Bouvard en tant que Bouvard dans cette émission. J'aime pas, si vous voulez, son physique. J'aime pas la manière dont il se manifeste.
Parce qu'il est petit comme vous.
Ah, peut-être c'est ça qui fait son agressivité. Je trouve. Vraiment, c'est trop facile d'être méchant avec des gens.
Croyez-moi, il n'est pas agressif du tout.
Mais non, mais
il n'est pas méchant du tout.
Mais, enfin, en tout cas, disons que ça ne me plaît pas du tout. Donc, ça ne me plaît pas. Et j'ai vu cet homme.
Michel Lonsdale.
Oui. Et j'ai trouvé qu'il a donné une réponse à ce problème, parce qu'il était professeur d'art dramatique, ou une chose comme ça. Et il a été obligé d'abandonner. Si vous voulez, dans le fond, je me demande si mon devoir, c'est de on peut pas apprendre. Vous comprenez, il faut créer un climat, être un chef d'atelier, d'un très grand atelier, pour donner une ligne. Et il faudrait des ateliers de professeurs techniques. Alors qu'il y ait des gens, des techniciens, des artisans bien précis qui donnent aux élèves, si vous voulez, des conseils techniques.
L'art ne s'apprend pas.
Je crois pas.
Mais on peut apprendre l'amour.
Je crois pas non plus. Il y a des gens qui vivent dans un climat, pendant toute leur jeunesse, d'une très grande agressivité, d'une très grande dureté, tout ça, et qui sont des gens qui connaissent l'amour d'une manière extrêmement forte. Il y a des gens qui vivent dans l'amour, qui sont caressés, qui ont de la tendresse autour d'eux, qui vivent dans la chaleur et tout ça, et qui ne deviennent pas des gens qui aiment l'amour.
Mais vous êtes en bonne compagnie avec vos élèves,
oui,
vous, le professeur des Beaux-Arts.
Mais bien sûr que...
Donc pédagogue.
Bon, mais qu'est-ce que la pédagogie, vous comprenez?
Bon, c'est l'art d'enseigner.
Bon, mais il y a des gens qui... Moi, j'apprends à être professeur, si vous voulez, dans le fond.
Mais vous apprenez tous les jours.
Oui, j'apprends, certainement. Et je me rends compte qu'on ne peut pas apprendre à être professeur. Bon, mais il y a des gens qui ont cette... il y a des professeurs, il y a des gens... Mais je ne crois pas que c'est à ce niveau-là. C'est à un autre niveau. Mais quand on arrive à ce niveau-là, au niveau de ces ateliers-là, je ne crois pas qu'on peut apprendre. On peut créer une atmosphère. On peut avoir, si vous voulez, c'est un mot à la mode, un dialogue. Et avoir des contacts. Et faire... Et avoir, si vous voulez, des discussions, mais pas des corrections. On ne dit pas, tiens, je vais te lever toi de là, je vais te corriger.
Enfin, vous, César, qui avez mission en ce moment d'enseigner, vous avez surtout besoin d'être compris.
J'ai besoin...
D'être écouté, d'être...
Et non, parce que si j'avais besoin d'être aimé, d'être compris, d'être écouté, ce serait le contraire même de ma lucidité.
Pourtant, vous en avez besoin, je le pense, moi. Mais je peux me tromper.
Qu'on m'écoute.
Oui.
Mais non, parce que si on m'écoute, c'est que... Si j'avais besoin qu'on m'écoute, c'est que j'aurais la certitude d'avoir la science infuse. Et j'ai pas du tout cette idée. J'ai l'impression que moi-même, je suis un élève. Que moi-même, j'ai tout à apprendre. Et je suis persuadé. C'est pour ça que les hommes, les grands hommes qui ont... ont toujours dit ça, et je suis persuadé que c'est la plus grande des vérités. Au plus on rentre dans le temps, plus on vieillit, plus on s'aperçoit que rien n'est fait, et que le temps vous échappe, et que... Vous vous rendez compte le temps, les années qu'il faut avant de prendre conscience. Alors, dans le fond, la vie vous échappe au moment où peut-être vous commencez peut-être à toucher quelque chose. Et je pense que c'est comme la carotte, je crois qu'on ne touche jamais. Vous comprenez, il y a toujours un trou qui se fait, et un trou amène l'autre, et ainsi de suite. Alors on croit que, et c'est ça qui donne la vie, c'est-à-dire que grâce à ça, on veut.
Enfin, César, il y a eu la ferraille, il y a eu le plastique, le bronze, le verre, il y a même eu le pain, car vous avez également sculpté le pain.
Oui.
Et on peut se demander ce qu'il y aura après, on peut se demander jusqu'où vous pourrez aller trop loin. Vous le savez ?
Non, je ne le sais pas, puisque je vous ai dit la manière dont moi j'agissais. Donc, je ne sais rien du tout.
Vous agissez d'instinct, sans préparation, vous trouvez, mais vous ne cherchez pas.
C'est un mot que j'ai déjà entendu quelque part, ça. Je cherche pas, je trouve.
Il doit y avoir Picasso.
Oui, ça. Comme ça. Non, c'est une chose qu'il faut rayer de notre interview. Il faut trouver un autre mot pour ça.
Mais pourtant, c'est chercher, trouver. Alors on peut dire je cherche et je trouve, ou je trouve et je ne cherche pas.
Je cherche, disons, si on dit la vérité, je cherche. Mais, enfin, disons que je cherche pas, mais si, et que peut-être je sens quelque chose. Ou alors disons que je cherche, mais que je ne trouve pas.
Enfin, dans la vie, il y a l'amour, puis il y a la beauté. Alors la beauté, pour certains, elle est exécrable, enfin la beauté d'un créateur, et pour d'autres, elle est fascinante. Vous la voyez comment, votre beauté ?
La beauté, elle est complète, elle est exécrable et fascinante.
Les deux pôles.
Et oui, la beauté, c'est tout. C'est pas... On ne peut pas définir.
À propos justement de la beauté, et parce qu'elle est exécrable, et parce qu'elle est fascinante, il y a peut-être ces vers de Baudelaire que vous connaissez, que j'ai retrouvés pour vous.
Ah bon.
Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe aux beautés, monstre énorme, effrayant, ingénu. C'est bien cela pour vous ?
Exactement.
Merci César.
Merci.